Chapitre 48. Vincent s'est positionné devant l'une des pierres saillantes. Henri devant l'autre. L'ensemble de la salle souterraine a été déblayé. Tout ce qui traînait a été empilé contre la grille qui a complètement disparu derrière l'accumulation de débris en tout genre. « Prêt ?» demande Vincent au clou. « Quand tu veux. » Je décompte de 3 et à 0, on y va. Le garçon hoche la tête. Vincent place sa paume sur la saillie. Il n'a aucune idée de ce qui va se produire lorsqu'il tentera de la repousser dans son logement, mais c'est le seul mouvement possible. Il prend une profonde inspiration et annonce « 3, 2, 1, 0 ». Les deux comparses enfoncent simultanément leur bloc. La souplesse du mouvement surprend Vincent. Rien n'accroche la trajectoire. L'élément glisse parfaitement en réintégrant le mur. Il l'accompagne jusqu'en bout de course. Les deux pierres ont repris leur place. Plus rien ne les distingue des autres. Vincent et Henri échangent un regard. Rien ne bouge. Le silence est total. Le clou s'étonne. « Tu crois qu'elle... » Un choc sourd l'interrompt. Un grondement résonne aussitôt, accompagné d'une secousse qui se transmet jusqu'aux fondations de la salle voûtée. Quelque chose vient de se mettre en branle. Vincent surveille le mur du fond, s'attendant à le voir s'effacer d'une façon ou d'une autre, mais la maçonnerie reste en place. C'est maintenant un bruit étouffé de chaînes ou de crémaillères qui emplit l'espace. Impossible d'en définir la provenance tant il est diffus. Tout à coup, le sol de la salle se met à vibrer. La poussière de terre battue tressaute. Les lampes dansent. L'une des deux, encore allumée, se renverse et s'éteint. Cavell plonge pour attraper l'autre. « Accroche-toi, Henri !» Paniqué, le garçon se précipite vers son aîné. « On n'aurait jamais dû appuyer. Tout s'effondre !» Vincent le cueille au vol et le ramène contre lui. Pour se stabiliser, il prend appui contre la paroi voisine. À sa grande surprise, celle-ci demeure parfaitement immobile. Le mur ne tremble pas. Il relève la tête et vérifie les voûtes. Aucune poussière n'en tombe. « Non, mon garçon, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne s'écroule pas. Le sol vibre de plus en plus fort. Le voilà qui commence à s'incliner. Côté grille, le niveau reste le même, mais vers le mur du passage, il s'abaisse. Vincent se décolle de la paroi. Quelques débris se mettent à glisser. Les lampes dérapent et roulent. Vincent tient fermement la sienne. La pente ne cesse de s'accentuer. « Le sol se dérobe !» s'écrie Henri. « Non, regarde. » Il s'enfonce et nous montre un chemin. Tel un pont-levis, le plancher continue à basculer pour révéler une ouverture située sous l'emplacement présumé du passage. Le mouvement est lent, régulier. Les bruits de crans qui défilent attestent qu'il est contrôlé par un puissant mécanisme. En fin de compte, le mur ne pouvait pas bouger, constate Vincent, admiratif. C'est le sol qui devait descendre pour ouvrir le passage caché en dessous. Il se redresse, en prenant garde de ne pas perdre l'équilibre. Il exulte. « Te rends-tu compte, Henri ? La solution était sous nos pieds. Cette ouverture secrète se jouait bien de nos a priori. » Fasciné, il regarde le sol de la salle se transformer en rampe d'accès. L'inclinaison dévoile peu à peu une arche étroite qui devient une ouverture marquant l'entrée d'un véritable couloir. « Ceux qui ont conçu ce stratagème sont des génies » s'exclame-t-il. Devant l'émerveillement que lui procure la révélation du passage secret, Vincent en oublie toute crainte. Il aurait tant aimé que Bégel et Robert Houdin soient présents pour partager cette fantastique découverte. Devant l'enthousiasme de son compagnon, le clou reprend de l'assurance à son tour. Le sol semble à présent s'être stabilisé. Vincent dévale la pente jusqu'à l'entrée du couloir, désormais dégagé. Il passe la main sur les pierres de l'arche et murmure, reconnaissant. « Merci, merci. Je préfère cet au-delà à l'autre. Je ne trahirai pas ta confiance. » « Tu parles au mur ?» s'étonne Henri. « Je parle à tout ce qui me touche. » Avec prudence, Cavell s'engage dans le passage. une obscurité absolue et un silence ouaté y règne. Il perçoit immédiatement un virulent courant d'air froid. Il s'arrête et se concentre. Même s'il est fasciné par la mécanique d'accès, un point l'interpelle. Comment un homme seul, même riche, même alchimiste, a-t-il pu concevoir et réaliser pareille machinerie? Il aurait fallu qu'il ait accès à des connaissances hors du commun et à des artisans d'exception, de véritables maîtres en architecture secrète. Peut-être en connaissait-il? Vincent tend sa lampe en avant vers l'obscurité et l'inconnu. Il est temps de vérifier si un trésor se cache par là. Henri va pour se faufiler, mais son chef l'arrête. Ne fonce pas tête baissée. Des traquenards nous attendent peut-être. Refroidi, le garçon se range derrière lui. Vincent passe la tête avec méfiance. À présent, la lueur éclaire l'au-delà. Il n'y a ni salon fouillis, ni cabinet secret. Encore moins un trésor. Son regard se perd dans la nuit de l'étroit couloir, taillé dans la pierre, qui s'enfonce bien plus loin que ce qu'il peut entrevoir. Un nouveau coup sourd résonne. Plus proche, plus puissant. Henri se colle à son aîné et crie. « Le sol de la salle remonte !» Vincent hésite. Le choix est aussi crucial qu'urgent. Doivent-ils reculer ou avancer? Est-il préférable d'espérer marchander leur découverte avec des tueurs, ou de tenter le tout pour le tout en pariant que ce passage leur permettra de s'échapper? Qu'est-ce qu'on fait? S'affole Henri. Il n'est déjà presque plus possible de se hisser dans l'interstice qui s'amenuise à mesure que la structure remonte. L'instinct de Vincent lui souffle d'aller de l'avant. Le temps de se le dire, il n'a de toute façon plus d'autre solution. Le passage vient de se refermer derrière eux. Lorsque le silence revient, Vincent sent Henri trembler contre son dos. Ils n'ont avec eux qu'une seule lampe, dont la flamme, même protégée par le verre, peine à brûler dans le flux d'air. Vincent doute tout à coup d'avoir fait le bon choix. Il ignore s'ils sont au pied d'un tunnel qui les ramènera vers la lumière ou au seuil de leur tombeau. Peut-être Minguier aurait-il été malgré tout moins dangereux que ce qui les attend. Alors qu'il espère revoir le soleil, un épouvantable rugissement s'élève dans le tunnel. Un cri de bête qui lui glace le sang. Le hurlement s'approche, assourdissant, inhumain, le râle d'un monstre affamé depuis des siècles.